Bonjour à tous d'abord. Je prie que, surtout les textes que nous allons lire, peut-être un peu ce que je vais dire, puissent nous amener justement à nous centrer sur le Seigneur et à l'attendre. Je vous propose qu'on lise deux textes pour commencer. Le premier dans Luc, chapitre 1. Au verset 76, c'est le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui parle. Il dit à son fils, « Et toi, petit enfant ?» Tu seras appelé, verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Grâce à elle, le soleil, donc grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Je proposerai maintenant d'aller à la fin de la Bible, dans 2 Pierre. chapitre 1, à partir du verset 16. Et ce grand apôtre affirme que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues les apôtres nous ont fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Nous avons déjà, dimanche dernier, parlé de l'avant, donc qui veut dire l'avènement ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est gentil, merci beaucoup. Et on avait dit ensemble que, peut-être on peut éteindre ici, que cette venue était comparée à un soleil qui se lève. Comme l'a dit Zacharie, le soleil levant nous a visités d'en haut. Comme un soleil qui se lève, qui pointe, on sait qu'il va venir. La venue du Christ a été aussi belle et aussi certaine qu'un lever de soleil. L'Orient, le soleil levant nous a visités. À un peuple qui était dans les ténèbres, petit à petit, la lumière est arrivée. La lumière s'est agrandie jusqu'à la pleine lumière quand Jésus a annoncé qu'on pouvait avoir accès au Père. Aussi beau et aussi certain qu'un lever de soleil. Le Noël, qui veut dire naissance, est arrivé, Jésus est venu, ce soleil s'est levé. Pierre a vu ce grand Sauveur, mais Pierre aussi nous annonce une deuxième venue, aussi certaine que la première, en prenant là l'exemple de l'étoile du matin qui va poindre dans nos cœurs. Aussi certain qu'un soleil se lève, aussi certain qu'une étoile brille dans la nuit et que celle du matin nous annonce le matin. C'est aussi ce Sauveur que nous attendons. Et nous avons déjà, dimanche dernier, un peu examiné la venue, la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient, notre Seigneur. Comme nous allons fêter, en regardant dans le passé, la première venue de Jésus-Christ, nous avons aussi dans notre cœur cette deuxième venue de Jésus-Christ. Et je vous proposerai que, justement, entre ce passé et cet avenir, eh bien, nous examinions ce deuxième avant que nous attendons, le retour de notre Seigneur. Voyons d'abord pourquoi nous affirmons que le soleil se lève, oui, que le Seigneur revient. Eh bien, vous avez dans le Nouveau Testament plus de 300 passages qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Ça fait quand même un verset sur 25 qui évoque d'une manière ou d'une autre le retour de Jésus-Christ, et notamment dans les évangiles. Le Seigneur parle beaucoup de son retour. Je suis assez frappé, qu'on en parle peu, nous autres, et on y reviendra tout à l'heure. Mais nous devons nous laisser imprégner de toutes ces paroles de Jésus-Christ. J'en ai mis trois qui me paraissent parmi les plus claires, les plus évidentes, mais c'est vraiment, le retour de Jésus est vraiment quelque chose que tous les chrétiens, et en particulier les chrétiens protestants évangéliques, retiennent. Jésus revient. Vous avez le premier, dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous, vous y soyez aussi. » On ne peut pas dire les choses plus clairement. « Je reviendrai. » Un peu plus tard, ce sont des anges qui parlent à ceux qui étaient là, stupéfaits et bien embarrassés parce que Jésus était parti, était monté au ciel. On peut comprendre leur désarroi et en même temps leur stupéfaction devant cet acte merveilleux. Et le texte biblique nous dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient », j'aime beaucoup cette image, je le vois les apôtres là, avec les yeux tout éberlués, en voyant leur cher Sauveur qui était parti de manière si extraordinaire, alors qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On ne peut pas dire les choses plus clairement. Et puis un troisième texte qui se trouve là dans les lettres que nous avons et qui nous ont été laissées dans la Bible, et ça se trouve dans Hébreux 9. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans qu'il soit question de péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On ne peut pas dire les choses plus clairement. Jésus est venu la première fois à Noël et Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il était venu pour le péché. Et Jésus reviendra une deuxième fois, mais alors là, sans rien avoir avec le péché, sans qu'il soit question du péché, parce que tout est réglé. Et alors là, il viendra pour le salut de ceux qui l'attendent. J'aime bien cette image qu'a donnée un commentateur, qui est René Pache, qui a dit que une foi en Jésus-Christ, sans l'attente de la venue de Jésus-Christ, évoquerait l'image d'un escalier qui ne conduirait nulle part et se terminerait dans le vide. Si nous avons foi en Jésus-Christ, maintenant que pour notre pèlerinage sur cette terre, pèlerinage, j'emploie le mot à dessein, comme on l'a vu dans Pierre. Pierre nous voit comme des gens qui sont pour un temps sur cette terre, pour un tout petit bout de leur vie, mais toujours en attendant d'être avec Jésus pour toujours. Et si nous vivons comme chrétiens uniquement en pensant aux marches que nous montons tous les jours à notre vie d'ici-bas, sans avoir cette perspective merveilleuse que nous serons toujours avec le Seigneur, alors c'est comme si on marchait sur un, qu'on montait un escalier, c'est essoufflant, et chaque jour on monte, et en fait, au bout de l'escalier, il y a le vide. Quelle désespérance! Mais non, le Seigneur nous a répété et répété encore, je viens bientôt. Nous terminerons par ces textes tout à l'heure. Donc soyons-en sûrs, Jésus revient. Alors on peut se poser, mais maintenant, comment revient-il ? D'abord, il revient personnellement et corporellement. C'est donc un mystère pour nous, dans le sens que c'est quelque chose qui est surnaturel, mais que nous croyons. Parce que Dieu est Dieu, et que ce qu'il dit, il le fait. Et qu'il l'a, il nous a donné déjà bien dans nos vies, mais même dans tout le témoignage des Écritures, qu'il était capable de faire des choses surnaturelles. Amen. Le premier texte dans Actes, je vais le lire sans forcément prendre tous les textes dans la parole, j'espère que vous me croirez qu'ils sont effectivement comme ça dans la parole. Acte 1, verset 11, on l'a lu tout à l'heure, « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. » C'est donc bien Jésus qui revient, et il revient bien corporellement. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir citer les 300 passages que j'ai évoqués tout à l'heure. J'ai sélectionné certains. Un autre, je l'avais dit dimanche dernier, qui personnellement, dans ma expérience personnelle, m'a beaucoup touché, dans Zacharie 14, verset 4, où il est dit « Il mettra ses deux pieds sur la montagne des Oliviers ». Cette contextualisation du lieu, de ce mont des Oliviers, qui était vraiment un lieu pour Jésus absolument, j'allais dire, je ne vais pas trouver le mot, mais un lieu extrêmement chargé, hein, il y est souvent allé, c'est là où il a souffert avant d'aller à la croix, et bien ce même Seigneur reviendra en mettant ses deux pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur lui-même, donc ce n'est pas un envoyé, ce n'est pas un ange qui va revenir, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur reviendra personnellement et corporellement. Deuxième chose, le retour du Seigneur sera glorieux. On l'a déjà vu dans les textes que nous avons lus, mais écoutons Jésus lui-même, ce Fils de l'homme, qui a dit lui-même dans Luc 21, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » J'aime beaucoup lire ce texte. « On verra le Fils de l'homme venant sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. » Là, ce ne sera pas le petit Jésus, ce ne sera pas le Jésus qu'on a mis de côté dans notre société actuelle pour ce qui est de notre pays. Ce sera celui que tous les hommes devront reconnaître comme grand et glorieux. Et là, ce ne sera plus la peine de leur expliquer. Ils le verront. Et une troisième grande caractéristique du retour de Jésus-Christ, c'est qu'il surprendra complètement les gens qui ne tenaient pas compte de Jésus dans leur vie. Là aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Thessaloniciens 5. « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » A priori, on n'attend pas ce genre de personnage. Il viendra quand on ne l'attend pas. Les voleurs ne sont rarement les bienvenus. On ne leur a pas préparé tout ce qu'ils peuvent prendre et ce qu'ils doivent laisser. Ils viennent sans nous le dire. Et là, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voilà, quand les hommes se sentiront suffisamment forts pour dire, grâce à tout ce que nous avons inventé, grâce à ce que nous avons mis en place, nous pouvons dire maintenant paix et sûreté, parce que nous avons fait des choses, c'est alors que Dieu leur dira, mes amis, souvenez-vous que vous n'êtes que des hommes, et que, comme le dit l'Ecclésiaste, Dieu, souviens-toi que Dieu est en haut et que toi, c'est sur la terre. Amen. Voilà trois grandes caractéristiques du retour de Jésus. Bien évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Mais en fait, je me suis attardé sur deux questions que nous pouvons nous poser, peut-être que vous vous posez, que je me suis posé personnellement par rapport au retour de Jésus. Et je voudrais donc examiner ces deux questions avec vous. La première question, c'est Jésus peut-il revenir aujourd'hui, par exemple ? Ce qui parfois, étant enfant, j'ai eu un peu peur, hein, surtout quand on me disait « Sois sage, parce que le Seigneur peut revenir tout à l'heure. » Et c'est peut-être un peu comme ça que la Bible dit, mais c'est pas vraiment comme ça non plus. En tout cas, pas pour terroriser les enfants. Mais est-ce qu'il peut revenir aujourd'hui ? À votre avis ? Oui ? On ne sait ni le jour ni l'heure. Il va plus vite que moi, Étienne. Mais est-ce que des événements doivent se produire avant ?
Oui.
Non, oui.
Oui.
Voilà. Jésus peut-il revenir aujourd'hui ? Oui. Mais est-ce que des événements doivent se produire avant ? Oui. Voilà. C'est le genre de question que l'on trouve dans les Écritures, ou en tout cas qu'on se pose à travers la lecture des Écritures, et auxquelles on répond effectivement aux deux « oui ». Effectivement, la première, par exemple, que citait Étienne tout à l'heure, le Seigneur peut-il revenir aujourd'hui ? Effectivement, Jésus lui-même a dit, vous savez, dans ces deux chapitres 24 et 25 de Matthieu, qui nous annoncent les choses qui vont arriver bientôt, c'est pourquoi tenez-vous en éveil, j'ai dit Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Alors, effectivement, on ne sait ni le jour ni l'heure. Vous avez aussi Paul qui nous dit dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour n'arrivera pas avant que n'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte. Mais on voit d'autres événements, des tremblements de terre, des bruits de la guerre et des bruits de guerre, etc., qui nous montrent qu'effectivement il y a des événements qui prépareront les choses. Alors que faire devant deux questions un peu opposées ? Eh bien, c'est ce que plusieurs appellent le « et » de l'homme chrétien. Et nous devons et attendre Jésus à tout moment, et être intelligents pour voir, examiner les choses qui sont autour de nous. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire des hommes qui sont encore dans leur cœur d'homme, dans toute leur fragilité, mais qui ont au fond d'eux, comme le dit l'apôtre Paul, un trésor, hein, le trésor dans un vase de terre, et donc qui sont en même temps enfants de Dieu, et en même temps dans une enveloppe, dans un corps fragile d'humain, nous sommes souvent dans cette tension du « et ». Et il n'y a pas que pour le retour de Christ qu'on peut appliquer ça. Certainement que dans d'autres enseignements, on retrouvera ça. Voilà. Par exemple, nous sommes et à la fois sur la terre et à la fois déjà dans le ciel. Et nous devons vivre ces deux choses. Et bien là aussi, nous devons et attendre la venue de Jésus-Christ bientôt. Nous verrons que la Bible se termine par « Je viens bientôt ». Comme si Jésus, en partant et en nous laissant aussi sa parole et en terminant le texte sur lequel nous nous fondons toute notre foi, nous dit tous les jours, je vous dis, je viens bientôt. Donc nous devons vivre ça complètement comme Jésus pouvant venir. Et en même temps, de l'autre côté, il nous dit d'être attentif aux événements. Par exemple, dans ce fameux Matthieu 24, Jésus nous dit, instruisez-vous. Donc c'est vraiment fort, Matthieu 24, 32, instruisez-vous, on peut le lire si vous voulez, puisque ça nous fera aller dans Matthieu 24, si vous voulez approfondir ces choses, c'est avec le chapitre 25, c'est deux chapitres extrêmement importants, d'autant plus, si on peut dire comme ça, qu'ils viennent de la bouche même de Jésus-Christ, même si je crois que toute la Bible est inspirée, de la même façon. Matthieu 24, 32, Jésus nous dit « Tirez instruction de la parabole du figuier. Et dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Donc il nous dit tirer instruction. Ça veut dire qu'il faut examiner les choses. Il ne faut pas passer dans la vie comme ça sans regarder ce qui se passe autour de nous. Tirer instruction de la parabole du figuier. Eh bien, comme quand on voit, voilà, comme tous les arbres, mais le figuier est un arbre très très fréquent en Israël, il est toujours. Voilà, dès que ses branches deviennent tendres, voilà, dès que on voit que les bourgeons grossissent, que les feuilles apparaissent, voilà, eh bien, on sait que l'été est proche. Eh bien, Jésus nous dit de même. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Donc, quand nous sommes appelés à examiner ce qui se passe dans le monde, et un peu comme quand un bourgeon commence à bourgeonner, et que des feuilles commencent à apparaître, on dit, voilà, le printemps est là, l'été est proche, eh bien, nous devons examiner les événements de notre monde et se dire, ça pourrait être des événements qui montrent que Jésus va bientôt revenir. Et Jésus nous appelle à regarder ça, parce que des événements vont se produire. Mais à noter que, contrairement à ce que certains ont pensé et peut-être pensent encore, on n'est pas appelé à s'instruire de ces événements pour se dire, écoutez, tant que ce n'est pas encore venu, on peut rester tranquille et puis vivre notre petite vie. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Jésus le dit. En disant, tant que vous n'avez pas vu des tremblements de terre, tant que vous n'avez pas vu de guerre atroce, vous pouvez attendre, voilà, vivez votre vie. Et puis quand vous verrez ça arriver, alors vous commencerez à attendre Jésus. Non, c'est jamais. C'est au contraire, ces événements sont là pour intensifier notre désir que Jésus revienne. Parce qu'en fait, eh bien, nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas savoir exactement quels sont les événements qui vont annoncer la venue de Jésus-Christ. Et beaucoup, dans les siècles passés, ont pensé que des événements atroces qui sont arrivés ont été un frémissement, ou plus que ça même. Certains ont dit « Jésus revient », même certains ont donné des dates. Alors là, on va beaucoup trop loin puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais certains ont pensé que les événements, Napoléon a été considéré comme l'antichrist, ensuite Hitler, etc., force est de constater qu'ils ne l'étaient pas, ou qu'ils étaient peut-être un premier profil d'antichrist. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et de nos pays, encore tout récemment, ont subi des choses atroces. Donc ces événements-là doivent être là pour nous dire, oui, des choses peuvent arriver. Peut-être c'est un commencement, comme dit Jésus, un commencement de douleur. Donc nous devons être très humbles, mais en même temps nous instruire de ces événements, et en même temps écouter toujours la voix de Jésus qui nous dit « Je viens bientôt. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez. » La deuxième question, qui est peut-être aussi prégnante que la première, c'est celle-ci. Est-ce que nous attendons ardemment le retour de Jésus-Christ? Effectivement, par exemple, dans Tite 2, versets 12 et 13, nous sommes appelés à mener dans le temps présent, donc maintenant, une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu. Et je crois, et on a prié d'ailleurs pour ça tout à l'heure, que de vivre en témoin, de témoigner, c'est simplement pas forcément par la bouche, mais aussi par la bouche, mais que notre manière de vivre témoigne d'une vie juste, équilibrée, pleine de respect pour Dieu. Mais Paul dit à Tite de le faire en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu Sauveur. J'aime beaucoup la manière dont Paul parle de son Seigneur. Il aurait pu dire simplement la révélation de Jésus-Christ, point. Non, la révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il n'en fait pas trop, Paul. Tellement il avait ce Dieu en lui-même, ce Saint-Esprit qui lui faisait être rempli de Jésus-Christ. Alors, il parle de la venue de Jésus. Il dit qu'il attendait cette espérance, la révélation de cette espérance. Pour l'instant, c'était une espérance et elle allait se révéler comme étant une vraie espérance. Une espérance concrète. Il avait raison d'attendre. Mais ce que nous l'espérons avec certitude. Et nous voyons que Paul avait ça en lui, cette espérance du retour de Jésus-Christ. Donc je repose ma question. Attendons-nous ardemment, tous les jours, le retour de Jésus? on voit que normalement, un chrétien qui est spirituellement en bonne santé devrait attendre avec ardeur que le Seigneur revienne. Personnellement, ça n'a pas toujours été mon cas, notamment quand j'étais jeune, je vous avoue, mais peut-être certains l'ont pensé aussi, ou pensent encore, je ne sais pas, que fort du fait que je savais que j'avais la vie éternelle, que j'étais jeune, que j'avais encore de belles choses à découvrir, j'avais envie de devenir adulte, autonome, j'avais envie de me marier aussi, etc. Je disais, le Seigneur, il peut venir, mais qu'il attende un petit peu. Je comprenais que peut-être des personnes effectivement très souffrantes, des chrétiens persécutés, veuillent que le Seigneur revienne. Mais moi, il faut dire aussi que la vie dans notre pays, nous faisons partie des 5% de la population de la planète à vivre dans un confort que très très peu d'hommes et de femmes ont. Et je sais que notamment mes séjours en Afrique m'ont fait comprendre ça, parce qu'effectivement, quand vous n'avez jamais vraiment vécu, on voit parfois à la télé, mais c'est toujours très loin, c'est toujours par télé interposée. Mais quand vous voyez la souffrance, et certains l'ont vécu certainement ici, la souffrance ou l'inconfort d'une vie, et de gens qui sont nés pour travailler et ils ne font que ça toute leur vie, durement, sans manger à leur faim, je me dis, mais je suis un privilégié dans ma vie. Et il nous faut comprendre ça dans notre société française. Surtout quand nous commençons à râler parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Et ces gens-là, peut-être, ils attendent plus le Seigneur que nous. Mais ma foi, je n'attendais pas vraiment que le Seigneur revienne, sachant qu'il m'avait préparé une place de toute façon. Et alors, j'ai dit au Seigneur, et je pense que, et je ne veux pas me poser en exemple, mais plutôt vous donner un témoignage. Plutôt que de me dire, de me culpabiliser, en disant, mais c'est pas bien, tu n'attends pas le Seigneur, et tu devrais attendre le Seigneur si tu es vraiment un chrétien. Jésus ne nous appelle jamais à nous culpabiliser comme ça. Mais, comme dit l'apôtre Jacques, un verset que j'aime beaucoup, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Voilà. Vous vous rendez compte que vous ne vivez pas a priori ce que Jésus veut vous voir vivre? Eh bien, écoutez l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Et en plus, il dit qu'il demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et qui ne fait pas de reproches. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers Dieu? C'est un Dieu qui a envie de nous donner, de nous faire découvrir sa sagesse, de nous faire vivre comme il a envie, comme vraiment selon son plan, et donc le meilleur pour nous. Et en plus, il ne nous fait pas de reproches. Vraiment, pourquoi se priver de lui demander? Et fort de ce verset, j'ai effectivement dit au Seigneur, écoute Seigneur, je sais qu'il faudrait que je t'attende, que j'ai vraiment envie que tu reviennes, mais j'en ai pas vraiment envie, je te le dis. Montre-le-moi. Et je pense que si chacun, ceux qui vivent ça, le fait, mais ça peut être aussi bien sûr pour d'autres choses, mais pour le retour de Jésus-Christ. En tout cas, personnellement, le Seigneur va vraiment former, va montrer, révéler au sens propre du terme, enlever un voile de quelque chose. Il va d'abord révéler la vraie nature de la société qui nous entoure. Et comme dit l'apôtre Jean, ce monde entier, il est en train de mourir sous la puissance du diable. Le monde entier gît dans le mauvais. À cause de ce confort de la vie que nous avons, peut-être nous ne nous rendons pas compte que le péché a tout corrompu. Et quand on voit ça, quand on voit le péché, ce qu'il peut faire aussi dans le cœur d'hommes et de femmes, la tristesse qu'ils peuvent vivre toute leur vie, alors là, on se rend compte qu'effectivement, il est grand temps que le Seigneur revienne. Et il vous révélera aussi l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Personnellement, ça a été un message d'un théologien spécialiste en écologie qui m'a fait, mais alors là j'ai une révélation de Dieu, qui m'a fait découvrir comment cette terre allait être transformée, cette terre qui est pourtant si belle, parce que je suis vraiment passionné d'écologie et pour la nature, et cette terre qui est déjà si belle, fait des choses merveilleuses. J'ai vu deux films cette semaine sur la nature à la télévision, mais absolument merveilleux. Je me dis, mais ce Dieu créateur a fait des choses absolument extraordinaires. Mais ce théologien nous a dit, mais la nouvelle terre, le nouveau ciel, ce sera encore mieux. Alors j'ai eu tout d'un coup cette espérance que, effectivement, ce que nous vivrons avec Jésus sera encore mille fois plus merveilleux que ce que nous vivons maintenant. Là, ça m'a vraiment libéré aussi. Mais surtout, ce qui m'a vraiment libéré, et j'étais vraiment frappé qu'on en ait parlé ce matin et qu'on ait chanté Dieu à ce sujet. Si vous priez que Dieu vous éclaire, si vous demandez à Dieu qui donne à tous généreusement et qui ne fait pas de reproches, il vous révélera en priorité et par-dessus tout son amour. La manière dont Dieu vous aime. Et ça, quand vous aimerez Dieu encore plus qu'hier et encore moins que demain, alors vous allez aimer votre Dieu et votre Seigneur de manière immodérée. Et alors vous direz, parce que c'est, il n'y a que son amour qui peut nous faire désirer sa venue, vous direz justement ce mot « Maranatha » que Paul utilise, qui veut dire « Viens, oui, viens, Seigneur Jésus ». C'est la révélation de Dieu dans votre cœur, dans mon cœur, qui peut me faire désirer la venue de Jésus-Christ, parce que je l'aimerai de plus en plus. Je vais conclure en souhaitant à chacun vraiment que cet amour en lui abonde de plus en plus, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, en connaissance et en vraie sensibilité, pour que vous discerniez les choses qui sont importantes en attendant la venue de Jésus-Christ. Et lisons cette conclusion que nous trouvons dans les derniers versets de la Bible. Je trouve extrêmement frappant. Apocalypse 22, on peut ouvrir nos Bibles. Je trouve extrêmement frappant que ce livre en qui nous fondons notre foi se termine avec trois fois en quelques versets l'affirmation de Jésus-Christ « Je viens bientôt ». Regardez au verset 7. Jésus dit « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ». Au verset 12 « Voici, je viens bientôt ». Et j'apporte ma récompense avec moi. C'est exactement ce que Stéphane a dit l'autre jour. Ce moment où on sera évalué au tribunal de Christ et où le Seigneur aura ses récompenses pour tous ceux qui l'ont aimé et qui ont vécu pour lui. Et j'apporte ma récompense avec moi pour traiter chacun conformément à son œuvre. Là, c'est bien des récompenses qu'il s'agit. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui a existé de toute éternité passée et qui sera là pour toute l'éternité à venir. C'est ce Jésus qui est venu s'incarner à Noël. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis, au verset 16, l'étoile brillante du matin. Et au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et là, l'épouse et l'esprit, je pense que c'est eux, puisqu'ils ont déjà dit la même chose un petit peu plus haut, amen, viens, Seigneur Jésus. C'est l'avant-dernier verset de notre Bible, du message que Dieu nous a laissé. Oui, je viens bientôt. Alors, je nous invite tous, peut-être à un moment de silence maintenant, où nous allons penser, pendant le Noël que nous allons vivre, à cette formidable venue de Jésus-Christ, venue s'incarner au milieu de nous, les petites fourmis, et nous révéler qui il était, l'alpha et l'oméga. Et que peut-être en disant, voilà Seigneur, tu es venu, nous pensions aussi, Seigneur, tu vas revenir. Il nous a dit, je viens bientôt. Prenons un temps de silence devant notre Dieu, chacun, chacune.